Essentiel Club, Frédéric Taddeï.
Ce soir, je reçois Serge Rezvani qui publie un nouveau roman magnifique. Ça s'appelle Vers les confins et c'est paru aux Belles Lettres. Je reçois le philosophe Éric Sadin qui s'est intéressé à Facebook dans le numéro des Inrecuptibles d'aujourd'hui consacré au 10e anniversaire du célèbre réseau social. Et je reçois Didier Chira qui publie Mots d'esprit, répartie drôlatique et autres vacheries de l'histoire de France à la librairie Vuber. Vous savez, depuis le temps, cette émission s'intéresse à l'art et à la culture d'aujourd'hui. En quoi sont-elles différentes de l'art et de la culture d'autrefois? Les années 2000, que nous ont-elles apporté de nouveau artistiquement, culturellement, intellectuellement? Serge Rezvani, vous en avez vu passer quelques décennies, vous?
Oui, en effet, mais je vais rappeler que c'est une question millénariste. Et il faut rappeler que l'an 1000... l'Église s'est énormément enrichie en faisant du chantage aux gens et qui ont donné tous leurs biens.
Vraiment? Parce que je me demandais si en l'an 1000, les gens savaient qu'on était en l'an 1000.
Et si, plus qu'aujourd'hui, l'an 2000.
Ah bon?
Mais je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, je pense que l'argent a une telle importance que tout ce qui était gratuit dans l'art, tout ce qui est en fait, la gratuité a disparu. Et le plaisir est gratuit.
Et pourtant, on nous dit, on nous avait promis que Internet, justement, ce serait le retour de la gratuité. Et c'est vrai que souvent, la musique est devenue gratuite, pas forcément légalement d'ailleurs.
Disons pour les peintres.
Vous avez été peintre, il faut savoir qu'avant d'être l'écrivain que vous êtes devenu, vous avez été un jeune peintre à succès.
Pendant 20 ans de ma vie, oui. Puis j'ai arrêté parce que justement l'argent est intervenu. Les marchands sont venus sur les marches du temple et toute ma génération d'après-guerre, on pensait inventer quelque chose de nouveau, de beau, et surtout c'était presque une mystique, la peinture. Aujourd'hui, l'argent a pris les peintres d'aujourd'hui battent monnaie. Et ça, c'est la fin, je crois, de la gratuité.
Vous voulez dire, ils battent monnaie au sens où ils la créent littéralement.
Ils créent une monnaie.
Ils créent de la valeur qui n'existait
monnaie,
pas,
tout voilà. Simplement.
Comme Picasso le faisait, lui, pour rire.
Oui, mais il faut dire qu'une chose, c'est qu'avant, comme j'étais un jeune peintre, les marchands prenaient 15% sur les ventes. Ensuite, c'était 30%. Ensuite, c'était 50%. Et maintenant, paraît-il, aux États-Unis, certains marchands prennent 90%. Ce qui veut dire que les peintres sont tout simplement leurs marionnettes et ils les manipulent. Et c'est eux qui font l'art d'aujourd'hui, les marchands.
Mais sur un livre, Serge Rezvani, vous ne touchez que 10% aussi. Le libraire, l'éditeur, le distributeur.
Oui, le livre, c'est multiple.
Oui, vous en vendez beaucoup plus que des peintures.
C'est ça qui est merveilleux, justement.
Éric Sadin, vous, qu'avez-vous remarqué de nouveau depuis le début des années 2000?
J'ai l'impression que c'est quand même cette histoire de fragmentation qui caractérise l'époque. C'est-à-dire que si on voit au prisme de l'art, par exemple, on voit bien dans les années 50, l'abstraction lyrique aux États-Unis, après le pop art, l'art minimal, c'était des mouvements très très identifiés, hein, et dont les artistes avaient conscience, hein, l'art conceptuel, l'art figuratif, le retour du figuratif dans les années 80, et tout était un peu à l'avenant, des mouvements massifs, identifiés, qui se succédaient. Puis il y a eu un moment, qui est difficile à dater, mais en gros on a commencé à parler de ça dans les années 90, et qui s'est qui s'est amplifié au cours des années 2000, c'est-à-dire l'indistinction, ou en tous les cas l'impossibilité de catégoriser. Et c'est à l'image de nos sociétés. C'est ça qui est intéressant avec ce qu'on peut évoquer là, c'est-à-dire que de ne pas pouvoir identifier de mouvements, mais une multitude de mouvements qui sont moins des mouvements que des individus qui ont des pratiques, et ça répond finalement à une sorte d'individualisation des sociétés où c'est la parole de chaque individu qui prévaut et qui a effet de réception ou non.
C'est vrai que quand on demande à une rédactrice de mode, c'est quoi la mode des années 2000 ou maintenant la mode des années 2010, elle dit c'est toutes les modes, chacun fait sa mode.
C'est vrai que ce que vous disiez, l'affaire d'avoir conscience de notre temps, notamment on le voit avec Internet, la façon dont la vitesse avec laquelle les pratiques se développent avec peu de distance, il y a quelque chose comme une conscience de l'époque qui est trouble, qui n'est pas certain, alors qu'à une Enfin, c'est difficile de se dire, de déterminer qu'à une période précise, on avait plus, mais probablement qu'on avait conscience des phénomènes tels qu'ils apparaissaient dans un présent plus ou moins récent. Et là, oui, il y a quelque chose de flou dans la conscience des phénomènes contemporains. Ça, c'est
Serge Resvanide, vous disiez que vous étiez la jeunesse de l'après-guerre. J'imagine que quand vous regardez vos photos, rien qu'à la façon dont vous êtes habillé, vous savez dans quelle décennie ça se situait. Aujourd'hui, on a de plus en plus de mal.
Oui. Mais ce que vous disiez, ce qui m'intéresse, c'est que je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas une recherche du sens. Nous avons perdu le sens. Quand Cézanne disait « Chaque peintre amène un maillon à la chaîne », ça veut dire qu'il considérait l'art aussi, que l'art avait un sens. Et donc, les artistes étaient des devins. Ils indiquaient, disons que les Grecs voulaient ressembler à leur statue.
Il y a un de vos personnages, d'ailleurs, on va le voir, dans Vers les confins, voit les artistes comme des voyants.
Absolument. Bien sûr,
il voit le futur.
Dans le cas de Tintoret par rapport à l'histoire juive et de Spartacus.
Par exemple, on va en parler. Didier Chira, vous êtes professeur d'histoire. Alors, quelle vision avez-vous des années 2000? Je ne parle pas d'une vision historique, bien entendu, mais qu'ont-elles apporté de nouveau à vos yeux?
Alors, pour moi, les années 2000, c'est un retour de ce que j'appellerais les vulgarisateurs historiques. Ces historiens un peu à la Decaux, à la Castelot, qui étaient capables d'enflammer, de transcender un sujet qui parfois peut être assez abstrait, théorique.
C'est une bonne nouvelle, ça.
Ah, c'est une excellente nouvelle. Je sais qu'en fac, moi, j'ai souffert parfois de certains ouvrages qui étaient assez ardus, et j'aurais aimé me raccrocher à quelques anecdotes. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a un vrai effort de la part des éditeurs et puis aussi des médias. Je pense à Franck Ferrand sur Europe 1,
forcément.
Réussissent à développer la passion de l'histoire.
Et vous-même, quand vous publiez Mots d'esprit, répartie drôlatique et autres vacheries de l'histoire de France, vous participez de ce mouvement?
Complètement. J'aime cette idée d'être un vulgarisateur, vraiment mettre la culture à la portée de tous.
On va en parler juste après ça.
Europe 1 Social Club. 21h, 22h30. Frédéric Taddeï.
Avec Éric Sadin, Didier Chira et Serge Resvani. Serge Resvani, vous avez été un jeune peintre à succès, je le disais. Vous avez écrit des pièces de théâtre. Vous êtes l'auteur-compositeur de chansons célèbres comme Le tourbillon de la vie et J'ai la mémoire qui flanche. Vous avez publié de nombreux livres, des romans, des essais, de la poésie. Votre nouveau roman s'intitule Vers les confins. Il vient de paraître aux belles lettres. Alors, je suis très impressionné de vous avoir devant moi parce que j'ai trouvé ce livre très, très beau, très impressionnant, très dense, très érudit. Et je me suis demandé toute la journée, je n'ai pas toujours pas trouvé la réponse. Comment faire pour en parler à la radio? Vous avez une réponse, vous?
Je vais vous faire rire. Je pense que c'est un livre indéfendable.
À ce point-là.
Je ne saurais pas par quel bout le prendre, mais d'ailleurs, je pense que le lecteur peut le prendre par tous les bouts.
Alors, il faut savoir que c'est la suite d'un autre livre qui s'intitule La traversée des monts noirs, qui est paru il y a une vingtaine d'années. Mm-hmm. Tout à coup, là, vous nous faites reprendre le train. Pour 400 pages. Et c'est vrai que je n'avais pas lu La traversée des monts noirs. J'ai commencé par Vers les confins. Ça ne m'a pas posé de problème. J'étais très heureux d'être dans ce train. Mais je n'avais aucune idée de où ce train me menait. Est-ce que vous, quand vous avez commencé le livre, vous saviez où ce train allait nous mener?
Non. Non, c'est un voyage. La traversée des monts noirs, c'était un voyage sur les traces de Diderot, qui s'est rendu en Russie. Et lui qui ne tenait qu'à ça. Pauvre robe de chambre et qui ont la sortie de force presque pour aller soutenir une Catherine qui était une tueuse, mais qui avait besoin des lumières pour se dire une grande impératrice.
Oui, une erreur qu'ont fait les rois de France, eux ne s'intéressaient pas aux lumières.
Hein. Non, non. Mais Catherine s'en est servie.
Oui.
Mais elle a rétabli le servage, etc.
Et pourquoi ça n'empêche pas?
Ça n'empêche pas. Il ne faut pas oublier que Voltaire s'enrichissait sur la traite des Noirs à Nantes.
Ce que vous rappelez dès le début du livre.
Absolument.
Et ça ne m'a pas empêché d'être un grand philosophe.
Mais bien
des
sûr.
Lumières.
Oui, d'avoir beaucoup d'ironie.
Ouais. Vous y croyez à l'ironie?
Énormément.
Serge Resvani, est-ce qu'il y a beaucoup d'ironie dans ce train?
L'ironie et l'humour. Disons que ça glisse de l'ironie à l'humour, toujours. Je pense que sans humour, je ne vois pas comment on peut avancer, et dans la vie, et par rapport à l'histoire des hommes.
Et alors, en vous lisant, ça m'a fait l'impression, la même impression que quand je lis Kafka. Et je le prends au sens, non pas au sens kafkaïen qui voudrait dire compliqué. Non,
oui,
je pense
référence au... à Kafka, voilà. Dans la fin du livre.
Et quand je lis Kafka, de la même manière, je trouve ça magnifique, je trouve ça intelligent, je trouve ça très drôle, comme votre livre. Mais je suis jamais sûr d'avoir vraiment compris ce que l'auteur voulait exactement me dire.
Mais, vous savez, ce sont les hommes politiques qui donnent des réponses sans qu'on ait même à leur poser de questions. Et je pense que les créateurs ne font que poser les questions. Et c'est dans le malaise et c'est dans l'inachevé que les œuvres se font. Donc on ne sait pas vers quoi on va. Si, je pense que dans la vie, même si on sait ce qu'on ne veut pas, la vie est très généreuse. C'est quand on sait refuser ce qu'on ne veut pas faire et accepter. Ceux qui disent je sais ce que je suis un optimiste, je sais vers quoi je vais, ils vont dans le sillon des autres. Donc c'est sans intérêt.
Alors ça se passe dans un train, Serge Resvani, qui quitte les Monts Noirs pour se rendre dans les confins, une zone torride et désertique, peuplée de mystérieux Esséniens. Le narrateur accompagne une mission de savants. Voilà, on ne peut pas dire plus, pratiquement.
Oui. C'est une mission qui ne sert à rien.
Oui, forcément.
Comme beaucoup de missions, je pense.
Ça fait rire, mais... Eric Sada. Vous pouvez intervenir, hein. Vous n'avez pas lu le livre, mais nos éditeurs non plus.
Non, ça me fait rire parce que comme beaucoup de missions, on dit que la France est le pays où on établit le plus de missions dès qu'il y a un problème. Beaucoup, et en général, on sait très bien que ça ne
débouche sur rien, bien sûr. Mais il faut bien nourrir les missionnaires.
Alors, autour de votre narrateur, il y a des savants qui font partie de cette mission. Il y a une doctoresse, une mathématicienne, une criminologue, un chercheur en philosophie. Vous avez choisi, j'imagine, leur métier, leur profession, à dessein.
Oui, bien sûr, à dessein, oui.
Qu'est-ce qu'ils représentent ?
Ils font partie du dessin, disons.
Oui, oui. Cette mission, que représente-t-elle ? Et qui en avez-vous exclu ?
C'est une mission absurde, de toute façon, et dans un lieu absurde, évidemment. C'est là où je pense à la référence à Kafka, évidemment au château, auquel on n'arrive jamais, avec un personnage qui s'appelle Clam, que personne ne voit et ne verra jamais. Donc c'est un peu c'est un contrepoint de ce livre que je trouve très beau. Mais non, je pense que on veut habiller. Nous sommes tous dans l'absurde. Nous avons évidemment, si on est assez intelligent pour le croire, il n'y a aucune finalité. Et c'est ce qui est intéressant par rapport au siècle dont vous nous posiez la question au début sur ce siècle. C'est que nous ne pouvons pas le nommer encore. Il nous faudra 50 ans peut-être de recul. Et puis encore, il y a les nanoprocesseurs qui arrivent. Donc je pense que quand on a inventé la roue, quand l'homme a produit le feu, c'était une grande étape. Quand il a produit la roue, c'était une deuxième étape. Le moteur à explosion est arrivé. Et aujourd'hui, il y a tout ce que le virtuel et
miniaturisation
et en plus la miniaturisation, et donc nous entrons dans l'ère des insectes. Tout simplement, nous préparons, je pense, par le nombre, nous entrons dans l'ère des insectes, et ça se voit car l'homme est très malin, il est extraordinaire l'homme, et il produit les outils de son futur mode de vie qui sera celui des insectes. Et d'ailleurs, ensuite, on va s'enterrer. C'est pas à peine d'aller sur Mars ni sur la Lune. La Terre va devenir aussi aride dans quelques dizaines d'années. Moi, je le verrai pas. Mais peut-être que si, même déjà, ça va très vite.
Et cette aridité, d'ailleurs, des confins que vous décrivez...
C'est la Terre de demain.
C'est le futur.
Plus ou moins. Ça va encore plus loin parce que j'écris une trilogie et donc il y a une suite. Et le troisième tome nous dira quel est le futur, peut-être.
Vous avez déjà commencé à titulera le troisième tome ?
Ça avance. C'est un autre voyage.
J'ai hâte. Alors, dans ce train, ces savants entourent votre narrateur, qui lui est un écrivain français, passionné d'oiseaux, qui regarde et qui écoute. Il s'exprime très très peu.
Non, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai écrit La traversée des Monts Noirs, le premier tome de cette trilogie,
qui est réédité par les Belles Lettres, hein, il faut le dire.
Oui, c'est comme ça que je me trouve aux Belles Lettres, parce qu'ils avaient adoré ce livre, et ce livre était épuisé, donc ils l'ont réédité. Et beaucoup de lecteurs de La Traversée des Monts Noirs me demandaient pourquoi il n'y a pas une suite, et en effet, donc la suite est venue. Mais dans La Traversée des Monts Noirs, ce qui est important, et c'est pour ça que ça se dévoile ici, dans celui-là, c'est que le narrateur est d'origine russe, mais il ne le dit pas, il comprend le russe, et il ne parle pas, il fait comme s'il ne comprenait rien. Et donc les gens s'exprime devant lui en pensant qu'il ne comprend pas. et il comprend tout. Et donc c'est tout l'humour du livre, si on peut dire, l'humour sous-jacent. Et là, donc, dans ce livre-là aussi, au début, il est toujours muet, il écoute. Puis à un certain moment, il se met à participer.
Oui, mais je vous imaginais bien comme ça, Serge Rezvani. Je me disais, ça doit être quelqu'un qui pense qu'on n'écoute pas assez, qu'on ne regarde pas assez, peut-être qu'on parle trop.
Ah, on est très bavard, c'est vrai. Je trouve que depuis que, par exemple, depuis que M. Hollande est arrivé comme un ange sauveur de la France, qu'est-ce qu'on bavarde, parce qu'on ne sait pas quoi dire. Où on a peur de dire ce qu'on pense, que tout le monde pense, cet ange sauveur.
Mais c'est peut-être aussi ce qui arrive à votre héros, dans ce compartiment, enfin dans ce train qui passe de paysages enneigés, effroyables, à un désert tout aussi effroyable.
Qu'est-ce qui arrive à ce héros, vous
pensez ? Oui, c'est peut-être aussi son cas. Lui aussi, il préfère ne rien dire.
Oui, il aime bien écouter. Mais il faut dire que nous sommes les derniers, l'écrivain et celui qui lit, sont les derniers silencieux et les derniers solitaires dans ce monde. Ils sont face à face et c'est une histoire d'amour. Et c'est 50-50.
On se retrouve dans un instant, Serge Rezvani.
21h, 22h30, Europe 1 Social Club. Frédéric Taddeï.
Toujours avec Serge Rezvani qui publie Vers les confins, son nouveau roman Aux belles lettres, Vers les confins, donc la suite, 20 ans plus tard, de La traversée des monts noirs, qui est également réédité par Les belles lettres. Alors votre mission de savant parle de choses très très graves. Ils en parlent tous en même temps, ils en parlent chacun à leur manière. Il y a la mathématicienne, il y a la doctoresse, il y a le philosophe, il y a le criminologue. Évidemment, ils ne tiennent pas le même discours sur les choses. Ils parlent de choses très très graves, de la Bible, de l'homme, de la femme, de l'extermination des juifs, de la religion, de la justice, de l'art, de la langue française, souvent d'ailleurs.
Mais cette mise en question du monothéisme, tout simplement,
aussi,
qui est porteur de violence.
Et de la violence, j'allais y arriver.
Et la Bible.
Et de la Bible, qui les contient toutes, quasiment, toutes ces violences. Oui, mais ce qui est très amusant, c'est qu'ils n'arrêtent pas de se contredire. On dirait un jeu.
Une dialectique. C'est une dialectique. On ne peut pas avancer sans la dialectique.
Mais on a l'impression qu'ils ne prennent pas au sérieux les questions qu'ils se posent.
Ah non, bien entendu.
Ça aussi, c'est important à vos yeux ?
C'est extrêmement important. Je suis ravi que vous l'ayez senti.
Il faut prendre tout au tragique et rien au sérieux.
C'est pas mal, oui, en effet. Oui, c'est une belle formule.
Oui,
absolument.
Vous vouliez intervenir, Eric Sadin ?
Je trouve la formule juste excellente.
Oui, c'est gentil. Bien.
Alors, par exemple, il y a ce chercheur en philosophie oubliée, un Anglais, qui dit, et j'y faisais allusion tout à l'heure, la science n'a aucune valeur si elle n'est pas doublée par l'intuition de ces hommes surhumains que sont nos grands artistes. Sans ces voyants, il parle des grands artistes, l'humanité avancerait en aveugle dans les incompréhensibles spirales de l'univers. Et il cite effectivement les grands peintres d'autrefois, qui sont, eux, des voyants, à une époque où la peinture représentait la face rêvée de l'humanité. Ce qui n'est plus le cas, peut-être.
Il offrait un visage à l'humanité et il fallait le rejoindre. Et qu'aujourd'hui, les artistes font des constats.
Mais vous-même avez fait de la peinture abstraite, Serge Rezvani.
Oui, j'ai fait de la peinture abstraite. J'ai été peintre parmi les jeunes abstraits de l'après-guerre. Mais c'était très particulier. Ce que nous avons vécu, c'est que la guerre a été une coupure extraordinaire. Et il n'y avait pas de livres, il n'y avait pas de reproduction. On ne savait pas que Kandinsky avait existé, etc. Donc toute ma génération de jeunes peintres, parmi lesquels il y avait Alechinsky, je sais pas, Debré...
Si je me souviens bien, vous avez été l'élève d'Otton Friese. Hein
non, pas du tout.
Ah, c'est une légende alors.
Oui, non, c'est une blague. Non, il avait un atelier à la Grande Chaumière. Non, mais j'étais à la Grande Chaumière, mais c'est trop compliqué à expliquer. Mais l'après-guerre, on était très, très dans une précarité énorme. Et moi, pour pouvoir vivre, je posais à la Grande Chaumière. Et en effet, je volais des tableaux et je peignais par-dessus. Donc, oui, non, j'étais pas du tout dans le système de.
Mais alors, revenons vers les confins. Vous pensez sincèrement, parce que c'est très difficile, ils parlent tous, le narrateur ne dit jamais rien. Et à chaque fois, je cherche dans ce livre, je cherche vos traces et je me demande ce qu'en pense le narrateur. Et j'imagine qu'elles sont partout. Mais cette idée qu'au fond, la science n'a aucune valeur sans les artistes, parce que les artistes, c'est ceux qui voient le futur.
Non, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, du temps de Diderot, par exemple, Diderot est un homme qui suivait les sciences de son époque. Vous pouvez en parler.
D'où l'encyclopédie.
Parlons pas des Grecs. Absolument. Donc aujourd'hui, les Sartre et tous les philosophes qui ont suivi se sont détournés des sciences, sauf Oui, sauf que il y a Thuillier, c'est le seul, je pense, qui a écrit des choses très intéressantes sur les sciences.
Est-ce que vous ne pensez pas que c'est parce qu'aujourd'hui les sciences, c'est un monde si vaste,
mais elles vont plus vite que la pensée.
Voilà, c'est qu'on ne peut plus tout savoir, comme l'homme du XVIIIe siècle.
Et c'est finalement les scientifiques qui deviennent les philosophes, qui essayent de philosopher, de tenir un discours parallèle à cette science qui galope, qui va trop vite, et que l'homme ne peut pas penser. C'est ça qui est très grave.
D'où les dialogues fort amusants parfois entre tous vos savants.
Ce sont les principaux dialogues, évidemment, sur par exemple les Iraniens qui avec leur centrale atomique, etc.
Il faut dire que vous êtes né en Iran, vous.
Je suis né en Iran. Oui, ça me permet de savoir très bien ce qui se passe en Iran, ce qui se passe dans l'esprit des Iraniens. Ils sont de grands menteurs.
À ce point-là ?
Oui. Non, c'est un art.
Oui.
Non, le mensonge est un art en Iran. C'est pas répréhensible, au contraire. Le meilleur menteur, c'est le meilleur.
Et c'est propre aux Iraniens ?
Paraît-il, d'après mon père, oui.
Alors, il y a la condition masculine et la condition féminine hantent la plupart des conversations.
C'est essentiel.
Parce que la violence étant importante.
Les femmes n'ont jamais déporté ni torturé.
Et d'ailleurs, quelqu'un avance que peut-être que le Christ, au fond, était une femme. Et que c'est pour ça qu'il était non-violent, qu'il était...
Oui, ça fait partie des facéties.
Qu'on l'aimait.
Ces dialogues, oui, c'est absolument.
Mais c'est une supposition qui, tout à coup, dans ce train, celui dans lequel vous nous emportez, Saint-Germain, prend tout son sens.
Oui, ça fait partie de tout ce discours, parce que, évidemment, le Christ n'a été accepté que 70 ans après Spartacus, il ne faut pas l'oublier. Et que la Rome a eu une telle trouille... parce que toutes les possessions romaines, il y a eu une révolte des esclaves extraordinaire, et il y avait un penseur dont on a effacé le nom, qui s'appelait Blossius de Cum, qui était un philosophe, qui a donné une idéologie. Spartacus, c'était pas une simple révolte. Spartacus, et les hommes qui l'ont suivi, les esclaves, espéraient édifier la cité du soleil. C'est quand même extraordinaire. Et bon, on les a crucifiés. Il faut penser que sur la voie appienne, il y avait des dizaines de milliers de crucifiés. Ça sentait tellement mauvais à Rome que les gens sortaient avec leurs toges sur leur visage. Tellement ça puait, tous ces gens qui se desséchaient. Et donc, 70 ans après, le Christ est arrivé, il a apporté une solution au problème de l'esclavage. Parce que la religion chrétienne est une religion d'esclaves. Il ne faut jamais l'oublier.
Alors ces hommes, ils sont décrits par le criminologue dans votre roman, il dit les hommes foutent le bordel partout où ils passent, parce qu'un homme n'est jamais seul, il est toujours deux, il y a lui et son pénis qu'il s'efforce en vain de maîtriser.
J'appelle le cornac.
Voilà, le petit cornac, c'est notre pénis.
Oui, c'est lui qui décide.
Et au fond, c'est lui qui nous rend violents. À vous entendre, ou en tout cas à vous
entre
lire.
Entre autres, oui, bien sûr, oui, c'est plus compliqué, l'homme est très pressé de conclure. La femme met 9 mois. La femme, elle met beaucoup d'amour à faire un enfant. L'homme se débarrasse.
Les femmes sont ici aussi. Elles sont contentes d'être ici, alors que les hommes sont toujours là-bas. Ils sont toujours dans le désir.
Elles sont dans la grotte depuis toujours. L'homme est en fuite toujours. Et puis, il faut évidemment couvrir le maximum de femelles.
Sans dévoiler la fin, Serge Resvani, et sans résumer le livre, parce qu'il est irrésumable, le sein de la femme est l'ultime révélation de cette quête.
Non, c'est qu'on parle du sein et je parle des seins. C'est très différent. Et que nous avons, Freud l'a assez dit, cette espèce d'obsession du sein. Et on oublie que les femmes aussi ont connu le sein.
Le sein de leur mère.
Le sein de leur mère. Et là, donc, ça se conclut, en effet, que deux femmes disent que c'est pas le sein, mais les seins, leur sein. Et quand elles se pressent les unes les autres dans leurs bras, c'est leur sein qui se pressent aussi les uns contre les autres. Parce qu'elles n'ont pas droit au sein dans l'idée patriarcale. L'homme a accaparé le sein aussi, entre autres. Puisqu'il veut accaparer l'utérus, puisqu'il veut faire aussi un utérus artificiel. J'ai entendu le professeur Bernard dire ça. Qui va délivrer les femmes de cette fastidieuse animalité et qu'on va faire un utérus artificiel, qu'on va les délivrer de l'ennui de faire des bébés. C'est quand même merveilleux.
Vous ne croyez pas que c'est passé de mode, même si aujourd'hui, effectivement, on est plus près que jamais de pouvoir se passer d'un utérus.
Je pense que ce qui est dommage, c'est que peut-être les femmes, en voulant devenir des hommes, seront d'accord, celles qui le veulent, croyant se libérer, quand c'est une aliénation encore, c'est s'aligner c'est s'aligner à ceux qui les ont alignés. Et c'est une idéologie qui n'est pas la leur. Je pense qu'on devrait prendre beaucoup plus... On devrait se tourner davantage vers cet immense mystère que sont les femmes et l'immense mystère qu'est l'utérus. Et je pense que l'univers est un immense utérus, tout simplement.
Votre livre est tellement joyeux à sa manière, Serge Vasbani, que je me suis demandé, au fond, êtes-vous optimiste ou pessimiste ?
Je vais vous répondre, c'est pas de moi cette réponse, mais elle est tellement forte. C'est que les juifs pessimistes se sont retrouvés à New York et les juifs optimistes à Auschwitz. Ne l'oublions pas. Attention à l'optimisme. Laissons-le aux hommes politiques qui nous mènent à Auschwitz.
Europe 1 Social Club. Frédéric Taddeï.
Avec Serge Vasbani, avec Éric Sadin, Didier Chira. Éric Sadin, vous êtes philosophe, je le disais, et pour les 10 ans de Facebook, auquel le numéro des Inrecuptibles d'aujourd'hui consacre sa couverture, vous avez décortiqué le plus célèbre réseau social de notre époque, hein, Facebook. Ça s'intitule « La machine à flatter ». En effet, pour vous, c'est tout un dispositif destiné en priorité à flatter l'individu roi.
Effectivement, bon. Il y a beaucoup de discours sur Facebook. On a dit depuis... D'abord, c'est un succès fulgurant. Donc, c'est à l'occasion du 10e anniversaire. Le 3 février, c'est la première mise en ligne. Le 3 février, le 10e anniversaire de la première mise en ligne. Bon, il y a ce succès fulgurant. Aujourd'hui, on est à plus d'un milliard d'inscrits. Et il y a eu plein de discours. Alors, des gens très enthousiastes de dire, voilà, il y a une nouvelle sociabilité détachée de la tâche au territoire qui repousse inhibition, qui encourage des liens entre personnes que l'urbanité contemporaine aurait tendance à atténuer.
Ou les frontières.
Voilà. Et puis d'un autre côté, il y a ce qu'on appelle les inquiets, les sceptiques, qui ont pu relever que ça encourage l'expression continue de soi, l'instinct grégaire, évidemment l'exposition de la vie privée. Bon. Quantité de discours qui, au cas par cas, certainement pourrait se vérifier. Mais moi, ce qui me semble très, 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 très flagrant et que j'ai essayé d'analyser de près, c'est que c'est un dispositif technique qui infléchit les comportements.
Et alors, comment avez-vous procédé ? Vous vous êtes installé devant Facebook, vous y avez passé des jours et des jours, ou simplement votre pratique était telle que vous n'avez eu qu'à laisser courir la plume ou le clavier d'ordinateur ?
Malheureusement, c'est la deuxième hypothèse.
Voilà, vous êtes déjà totalement Facebooké.
Voilà, et bien trop. Je pense que d'ailleurs, quand j'écris mes livres, c'est très difficile. À l'attention aujourd'hui, il y a quelque chose qui est d'un point de vue cognitif aujourd'hui, il y a une diffraction de l'attention. Parce que quand même, sur la même machine, on écrit, sur la même machine, on peut aller voir, moi qui aime bien le sport, l'équipe.fr, le monde et Facebook, évidemment. Bon, ça, c'est une chose. Donc, j'ai une pratique de cette histoire, de cette plateforme. Mais ce que j'ai vu, c'est que j'entends parfois des personnes parler d'une neutralité de la technique. Non, il y a un dispositif technique qui est constitué en vue de flatter les personnes. Je peux expliquer comment. Et ça induit quoi, cette flatterie continue par le dispositif? Ça induit la plus grande fidélisation, la plus intense.
Et plus grande exploitation commerciale,
évidemment,
aussi, dites-vous.
Évidemment.
On va revenir sur tout ça, mais puisque vous dites que c'est d'abord un dispositif technique, très souvent, ceux qui inventent un dispositif technique, quel qu'il soit, ne prévoient pas du tout l'application qui va en être faite. Je crois savoir que Graham Bell, quand il a inventé le téléphone, croyait avoir inventé une machine pour les sourds. Et quand on a inventé le cinéma, personne n'imaginait qu'un jour on s'enfermerait 2 heures dans une salle toute noire pour regarder un long métrage.
Pareil pour le rayon laser, on ne savait pas exactement à quoi il servirait. Puis
j'imagine. Donc au moment où cette technique est créée, qui peut imaginer que 10 ans plus tard, 1 milliard de gens se likeraient sur Facebook, se vireraient en tant qu'amis.
C'est ce que je dis dans l'article, c'est que on ne peut pas décrypter une intention délibérée initiale. En revanche, on peut identifier la façon dont ça fonctionne et voir les effets. Alors, par exemple. Alors, sans parler du terme d'ami, parce qu'il y a des glissements sémantiques évidemment qu'il faudrait analyser. J'ai choisi dans cet article du numéro spécial des Inrocs de focaliser sur la flatterie, qui me semble extrêmement important. Par exemple, comment se passent les contacts? hein, c'est-à-dire c'est pas ouvert, hein, on sollicite et puis on reçoit. Alors quand on reçoit, évidemment il y a toujours, et moi je l'ai vérifié auprès de plein de personnes, quelque chose comme une marque d'estime qui est perçue, hein. Et puis après,
quand on veut être votre ami,
quand on nous signale une demande, et une demande d'amitié, il y aurait tant à dire sur cette expression. Bon, et puis une fois que le cercle se constitue, on peut, comme on dit en franglais ou en anglais repris en français, je sais pas comment on doit dire, on peut défriender à sa guise, hein, sur un petit clic. Puis on peut aller encore plus loin. On peut bloquer un ami. Vous vous rendez compte, c'est même pas un contact. L'expression, c'est signaler. Des comptes signalés ou bloqués, c'est la même fonctionnalité. Hein.
Oui, mais il ne peut plus jamais vous adresser la parole.
Il ne peut plus jamais vous voir. Alors vous vous rendez compte, le sentiment de toute puissance que ça induit à l'égard de son cercle, et comme je dis, sous des modalités formelles qui n'ont jamais lieu dans le cadre de la sociabilité.
Mais ça, c'est véritablement
visuelle.
Inédit. C'est-à-dire que personne
inédit.
Ne peut, comme ça, vous admettre tout à coup comme ami, et puis dans la minute suivante, vous excommunier de telle manière que vous ne pouvez plus jamais le voir ni lui parler.
C'est ça.
Les rois pouvaient cela.
C'est ce que je dis, c'est l'individu roi contemporain. Mais encore, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que on peut décrypter encore d'autres usages. Par exemple, la façon dont, d'un point de vue graphique, le nom est au-dessus. Le nom, l'image, le profil est au-dessus de ce qu'on appelle le poste.
Oui, hein. Ça, il faut imaginer l'écran de l'ordinateur.
Il y a l'image et en dessous, il y a la publication de chaque inscrit. Et ce que je relève, c'est qu'en général, quand on écrit une lettre, on met le nom dans la partie inférieure. Là, le nom est dans la partie supérieure. Et qu'est-ce que ça induit, ça? Ça induit ce que j'appelle, une fois, je suis désolé de me citer, hein, mais c'est quand même...
C'est pour ça que je vous ai demandé de venir.
Mais merci Frédéric, mais ça induit ce que j'ai appelé une hallucination rhétorique contemporaine, c'est-à-dire qu'à un moment, j'ai vu dans les années 2009-2010, les gens commençaient à parler d'eux à la troisième personne du singulier. Alors par exemple, il y a le nom « se demande »,« s'interroge », »,« se promet ». Alors je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors là, on voit bien que c'est une ergonomie, une interface, un agencement, un jeu graphique très subtil qui encourage des usages. Et cet usage, il induit quoi? Qu'il y a un retour symbolique sur sa propre personne. Je parle de moi. Alors, je défreinte, je bloque, etc. Mais je parle de moi à la troisième personne.
Comme les rois, disait Serge Asvani.
Mais ça ne suffit pas. Il y a le mur. Ce mur qui est encore une...
Alors, expliquez ce qu'est le mur Facebook pour tous ceux qui ne sont pas sur Facebook. Il y en a encore.
Ils sont de moins en moins rares.
Ils sont encore 6 milliards.
Bon.
Hein. Il ne pas y être.
Oui. Là, nous évoquons des fonctionnalités qui se sont agrégées au fur et à mesure, hein, au cours des 10 dernières années. Alors, le mur, c'est des publications, des commentaires que les gens postent relativement à un commentaire initial, hein, et qui sont visibles par tous. Hein, par exemple, je mets un post, vous le commentez, Frédéric, on parle entre nous.
Le post, c'est voilà où j'ai passé ma soirée hier.
Voilà,
avec
moi
une
je
photo,
vous dis, Frédéric, ça m'a fait plaisir, on pourrait reprendre un... Et puis tout le monde nous voit. Hein,
c'est une fausse intimité,
Alors, non seulement c'est une fausse intimité, mais c'est cette dimension de publicité induit encore le retour symbolique que les propos sont tellement intéressants, hein, ont une telle valeur qui méritent d'être exposés aux yeux de tous, et ça induit encore une sorte de théâtralisation ou exhibitionnisme de la parole. Hein, en tous les cas, une théâtralisation.
Et de l'intimité, ne croyez-vous pas ?
Et de l'intimité. Et puis, encore, si on peut décrypter toujours... Ce dispositif à la mesure de la flatterie de ce que j'appelle l'individu roi contemporain, hein, évidemment c'est à la mesure de l'individualisation de nos sociétés, hein,
de la passion que nous avons pour la célébrité aussi, parce qu'au fond les gens sur les réseaux sociaux se conduisent tous comme s'ils étaient célèbres.
Évidemment.
Ils sont aussi les paparazzi d'eux-mêmes.
Bah, évidemment.
Ils publient leurs photos de vacances, ils donnent la liste de leurs amis, ils font des déclarations.
Évidemment, avec les jeux de starisation que ça peut induire à l'intérieur de chaque cercle, et évidemment là aussi les retours symboliques. Alors le retour symbolique de ce que j'ai appelé la très géniale, je suis désolé, j'arrête pas de me citer, j'en ai presque honte, la très géniale invention facebookienne du like, qui est apparue en 2009.
Alors là aussi, il faut expliquer pour tous ceux qui n'y sont pas, on peut cliquer quand on aime.
Voilà.
Hein, on clique sur un like avec un pouce.
Le pouce du gladiateur, hein, qui était éminemment...
Mais vers le haut.
Vers le haut, s'il était vers le bas, c'était évidemment dangereux, enfin voilà, inquiétant. Donc c'est le dispositif, là, pour le coup, extrêmement binaire. On sait très bien que toute la structuration de l'informatique relève de l'ordre binaire. binaire. Mais je vais pas faire une sorte d'image trop facile. Mais là, c'est vraiment un binaire. D'ailleurs, on relève qu'il y a pas j'aime pas, sinon ça créerait des effets de conflit et de.
Oui,
de...
parce que la binarité s'arrête quand même au pouce levé. Il y a pas de pouce descendu.
Voilà, uniquement au pouce levé. Et qui veut. Alors, c'est très étrange quand même ce cadre social, hein, et ce cadre de publication sociale, d'expression de soi, qui veut que rien aujourd'hui, en tout cas dans ce réseau-là, ne peut être publié sans que ça soit redoublé par un procédé d'assentiment. Mais d'un sentiment extrêmement élémentaire, j'aime pas. Et ça induit quoi? Ça induit que, alors déjà pour ceux qui postent, toujours le retour symbolique, hein, valider mes propos, ma photo, mon commentaire validé par les personnes de façon sans équivoque, puisque il y a le nombre.
On reconnaissait que c'est agréable, on demande toujours l'approbation des autres, on a envie qu'ils nous trouvent sympathiques, agréables, beaux.
Voilà. Donc il y a du j'aime, il y a de je t'aime, il y a de on m'aime, sous des procédés extrêmement simples, hein, c'est pas très simple et à la fois extrêmement simple à manipuler, et qui fait ce procédé que eh bien ça induit notamment des effets de j'ai beaucoup observé ça, hein, et je m'en abstrais pas, hein, je ne m'en abstrais pas moi-même.
Non, tous ceux qui sont sur Facebook sont les meilleurs critiques de Facebook.
Voilà, je tiens à le dire, hein, crée des effets de fidélisation et de compulsivité. C'est-à-dire, je poste quelque chose et je veux y retourner pour savoir, quand même, c'est terrible, quoi, la formule que je vais dire là à l'instant, qui a liké et qui, ça veut dire quoi, qui, mais aussi combien, hein. Et comme je dis encore, les rois se retrouvent un peu nus, c'est-à-dire qu'il y a un effet de retour du réel extrêmement cruel, c'est-à-dire qu'il y a des posts qui n'ont qu'un like, quand même. Alors, jusqu'à maintenant, Facebook n'a pas inventé de procéder avec des algorithmes de façon à ce que des likes robotisés comblent de joie les rois nus du moment.
Vous voulez dire qu'il y a une humiliation terrible à ne pas être liké quand on a...
Et c'est visible. Une humiliation terrible, visible aux yeux de tous.
Europe 1 Social Club. 21h, 22h30. Frédéric Taddeï.
Avec Serge Rezvani, Didier Chira et Éric Sadin, qui publient La machine à flatter, un article dans le numéro des Inoccupables aujourd'hui consacré au Facebook, aux 10 ans de Facebook. La machine à flatter, c'est le réseau social. Serge Rezvani, je me demandais, pour vous, Facebook, c'est quelque chose de totalement étranger?
On me met sur Facebook et je fais effacer. Je n'ai absolument pas de lien.
Mais vous ne voulez pas y être?
Ça ne m'intéresse pas, non, pas du tout.
Parce que ça n'existe pas à vos yeux, parce que le virtuel...
Non, je ne compte à rendre qu'à moi-même.
Et puis je crois me souvenir que vous aviez fui Paris, c'est pas pour vous retrouver sur Facebook,
oui,
non?
Oui, c'est vrai, je suis parti vivre...
Très loin.
Dans le Midi, très loin, assez loin, non. Dans un endroit très beau. C'était l'hédonisme.
Didier Chira, Facebook...
Moi, je suis assez effaré à côtoyer des adolescents tous les jours. Plus
en
par
tant
les
professeur,
en tant que professeur, bon, les portables sont interdits au collège, mais bon, quand on est en sortie scolaire, on voit un petit peu le comportement des élèves. Moi, je voulais évoquer en fait les selfies, c'est-à-dire les photos qu'ils prennent et qu'ils envoient ensuite sur le net. Il y a vraiment un narcissisme qui est terrifiant, je trouve.
Un narcissisme, mais aussi une manière de se rendre ridicule. Il y a des photos où les gens sont volontairement disgracieux, ivres, ou même parfois et souvent, j'espère en tout cas, simulent l'ivresse devant ces photos, ne le croyez-vous pas?
Ah, si, ils sont tellement absorbés en fait par la photo qu'ils vont prendre, ils ne se rendent même plus compte qu'autour d'eux, il y a des personnes qui les regardent. Donc on va prendre des pauses en faisant abstraction totalement de ceux qui sont autour et ça devient complètement ridicule. J'ai une petite anecdote là-dessus. Il y a pas très longtemps, ma fille qui fait beaucoup de selfies, je pensais qu'elle me faisait un sourire. Pas de chance, en fait, c'était une photo qu'elle prenait avec son smartphone. Bon, voilà un exemple de situation complètement...
Il y a cette phrase d'Obama que j'avais trouvé c'est très révélatrice. Arrivant dans une classe d'enfants, il venait d'être élu président des États-Unis, et un enfant lui avait demandé « Monsieur le Président, qu'est-ce que vous nous recommandez de faire pour devenir président des États-Unis » Et Obama avait répondu « N'en mettez pas trop sur Facebook
». Bon, je voudrais pas qu'on croie que je sois anti Facebook, hein, c'est pas l'enjeu. L'enjeu c'était de décrypter les phénomènes.
Oui, est-ce que ça induit, ce que ça implique? Mais justement, ce que ça induit, ce que ça implique, vous le rappelez, Éric Sadin, c'est que c'est l'illusion de l'intimité. Mmh. on joue sur des degrés de visibilité, on consent telle visibilité, mais en réalité, vous rappelez que l'intégralité des données personnelles que chacun affiche sur Facebook, en réalité, appartient à Facebook. Et quand Obama dit « non mais t'es pas trop sur Facebook », il veut dire par là qu'un jour ou l'autre, on vous le ressortira.
Et évidemment, on a vu plein de cas de figure comme ça hein, ces dernières années, c'est-à-dire dans le cas du travail, dans le cas de lycées, voire des cas de diffamation. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que ces grandes firmes sont extrêmement sensibles à l'air du temps. Hein. Elles sont aux avant-postes, parce que notamment dans les Silicon Valley, en Californie.
Donc, des grandes firmes d'Internet.
Firmes d'Internet.
Qui, en quelques années, sont devenues d'énormes monopoles.
D'énormes monopoles et qui ont des équipes de designers, de sociologues, de philosophes. Donc, ils sont surinformés. Hein. Donc, dès qu'ils sentent un danger qui pourrait mettre en cause le modèle, hein, ils réagissent. Alors, comment ils ont réagi ces derniers temps? Avant Snowden, hein, avant l'affaire Snowden, parce que si on peut en parler, je pense que c'est
Snowden,
important.
Il faut s'en souvenir. Hein, cet analyste qui a rendu public que la NSA, notamment, espionnait les Américains, pas seulement les Américains, grâce à Facebook, à Google.
C'est ça. Et relativement à la question de la vie privée, Facebook a proposé de modifier ce qu'on appelle les règles de confidentialité et un peu de laisser la main aux utilisateurs, hein, en leur permettant d'ajuster un peu au cas par cas, tel type de publication à tel cercle, quel degré de visibilité pour telle page, pour telle... Bon, mais ce qui les gens y ont cru, hein, donc là c'est encore une affaire de discours. Hein. Certes, c'est possible, mais qu'est-ce qu'on ne voit pas dans le même mouvement, c'est que de toute manière toute cette confiance-là induit probablement encore plus de postes, encore plus de diffusion de l'information, qui toutes appartiennent au propriétaire exclusif qui est non pas Facebook, mais qui est la firme Facebook. C'est la firme Facebook. Et cela, évidemment, en vue de quoi? En vue de créer la plus grande base de données comportementale au monde. Hein, c'est-à-dire que personne, plus que la NSA, hein, personne au monde dans les bases de données, dans les serveurs de Facebook, n'en connaît autant sur 1,2 milliard sur les comportements continus dans le temps, évidemment leur grille relationnelle. Hein, et cela, qu'est-ce que ça représente, évidemment? C'est de l'or commercial en vue de revente à des compagnies, en vue de proposer, évidemment, c'est le cœur de l'affaire, des offres individualisées à chaque personne.
Oui, hein,
par la connaissance de leur comportement.
Mais reconnaissez que tout ça n'était pas prévu et qu'au fond, toutes ces données, c'est nous qui leur avons donné.
C'est l'idée de la plateforme. L'idée de la plateforme, c'est que ce sont ceux qui initient, ceux qui conçoivent la plateforme, créent le dispositif, ce sont les personnes qui l'alimentent. Et aujourd'hui, on en parle beaucoup de ces questions. Hein. On l'alimente avec nos données. Hein, et des données qui, simultanément, sont traitées et exploité en retour. Alors, c'est notamment cela à quoi nous avons affaire avec Facebook, et d'une façon très étrange et extrêmement sophistiquée et a l'air totalement soft, quoi.
Oui, mais en même temps, en quoi est-ce que dangereux? Vous savez bien ce que répondent les gens. Après tout, j'ai rien à me reprocher, donc personne n'a de raison de m'espionner. Et deuxièmement, après tout, que des marques commerciales viennent de me proposer des produits qui sont exactement les produits dont je pourrais avoir envie. Pourquoi pas?
Oui, alors pourquoi pas? Sauf que à terme, c'est une connaissance de plus en plus approfondie des personnes qui est en train de se constituer aujourd'hui. Alors ce qu'on appelle vie privée, c'est-à-dire ma part un peu, notre part à chacun, intime, préservée, ça c'est exactement ce moment historique dont Facebook participe, mais parmi tant d'autres, hein, Google et l'économie du net en général, c'est un rétrécissement. Une forme de rétrécissement du monde où les personnes sont de plus en plus informées les unes à l'égard des autres. Alors on peut dire oui, ça me gêne pas. Mais oui, il y a quelque chose comme une part privée irréductible qui de plus en plus est gagnée par la visibilité, par un phénomène de visibilité par les autres.
La question que vous posez avec Sadin dans votre article, La machine à flatter, hein, dans le numéro des Inoccupables consacré aux 10 ans de Facebook, c'est comment se réapproprier les réseaux sociaux. Et alors, à un moment, vous dites dites que, au fond, c'est devenu un peu les réseaux sociaux, en tout cas Facebook, ça singe la reine de Blanche-Neige, qui se regarde toujours dans son miroir, et que vous invoquez la fin de la Dame de Shanghai, le film d'Orson Welles, que vous allez nous décrire pour que nos auditeurs imaginent ce que vous imaginez.
La Blanche-Neige, hein, devant pas Blanche-Neige, la reine dans Blanche-Neige, oh mon beau miroir, dis-moi.
Hein. Ça, c'est Facebook.
Bon, ça, c'est Facebook. Par la façon dont c'est constitué. Hein. Par exemple, on a parlé des demandes d'amitié, de la façon dont on bloque, de la façon dont, par l'agencement des designs, on parle de soi à la troisième personne. Vous voyez, c'est quelque chose qui ne cesse de contribuer à la flatterie et le retour d'ego de la personne. La reine de Blanche-Neige.
La dame de Shanghai.
La dame de Shanghai, la fusillade dans le magnifique épilogue, hein, où les bris de. Les glaces.
C'est dans une galerie des glaces.
Voilà, hein, s'effondrent et les
miroirs s'effondrent.
Les reflets des personnes. Hein, j'ai dit qu'il faudrait peut-être en arriver à là et de façon à délaisser enfin le stade du miroir pour arriver à un stade plus mature, responsable de la sociabilité connectée. Et ce serait quoi? Eh bien, c'est de créer d'abord d'autres interfaces, hein, d'autres compositions algorithmiques qui ne tendent pas toutes vers la flatterie, mais qui tendent vers le respect de la vie privée, l'accueil de la différence, l'accueil de la contradiction et l'échange ouvert. Voilà.
Serge Resvani, ça vous inquiète, Facebook, vous ?
Ça me fait penser à ces jukebox aux États-Unis où on mettait une pièce pour avoir 3 minutes de silence.
Ils ont vraiment existé? Ça n'est pas une idée d'artiste contemporain?
Non, le temps d'une chanson muette.
Oui, c'est vrai que sinon, ça faisait du bruit les bars américains, hein, à ce moment-là.
Non, mais je pense que c'est très intéressant ce que vous dites, ça me passionne et ça m'effraie énormément. Mais je pense que nous n'avons que ce que nous méritons.
Concernant Facebook, c'est évident.
Voilà.
Nous participons tous de ce phénomène.
Absolument.
Enfin, en tout cas, ceux qui y sont.
On clique et on reclique.
On se retrouve juste après les infos.
Social Club, Frédéric Taddeï.
Nous sommes jusqu'à 22h30 avec Serge Resvani pour son nouveau roman magnifique, je le répète, Vers les confins, aux belles lettres. Nous sommes avec le philosophe Éric Sadin qui s'est intéressé à Facebook dans le numéro des Inrecuptibles consacré au 10e anniversaire du célèbre réseau social, et c'est un article très intéressant. Et nous sommes avec Didier Chira qui publie un livre très cocasse, Mots d'esprit, réparties drôlatiques et autres vacheries de l'histoire de France. Chira, après Facebook, vous intéressez à des messages qui font pour la plupart moins de 140 caractères. Hein, ce sont un peu les tweets des siècles précédents. Hein, ils ont traversé les siècles, ils sont arrivés jusqu'à nous. Votre livre s'intitule « Mots d'esprit, réparties drôlatiques et autres vacheries de l'histoire de France ». Il est paru à la librairie Vuibert. Vous êtes professeur d'histoire, vous en avez sélectionné une centaine. Comment les avez-vous choisis ?
En fonction de... J'ai essayé de trouver un équilibre entre les mots d'esprit, les réparties drôlatiques et les vacheries. Alors,
faut que vous fassiez la différence, parce que je me souviens que dans Ridicule, le célèbre film de Patrice Lecomte, c'était Jean Rochefort qui s'amusait à noter dans sa carnet tous ces mots d'esprit. Et il disait, il y en a certaines, ce sont des réparties ou des saillies drôlatiques. Alors vous, quelle différence faites-vous entre une répartie drôlatique et un mot d'esprit et une vacherie?
C'est une différenciation qui... sera peut-être personnel. Je vais commencer par celle que j'aime le moins, la vacherie. Parce que pour moi, dans la vacherie, il y a une méchanceté à laquelle, personnellement, je n'adhère pas. Je peux en citer une, par exemple.
Je vous en prie, il y en a tellement.
Il y en a énormément. Bon, une contemporaine, lors des élections présidentielles en 1995, on sait que, Édouard Balladur s'est présenté. Ce qui n'a pas plu à Jacques Chirac, parce qu'il y avait un accord tacite, hein, le Matignon à Balladur et puis l'Élysée à Chirac. Et donc là, Chirac a eu des propos très méchants sur Balladur en disant « Quand il serre les mains dans une foule, il se demande toujours où est le rince-doigt ». Là, pour moi, vraiment, c'est la vacherie.
Ah oui, il y a des vacheries plus anciennes. Vous en citez une de Voltaire, hein, dans l'introduction, quand il parle de Jean Fréron.
Oui.
C'est très célèbre, d'ailleurs. Hein.
Ah oui, oui, oui. Alors, il tient ces mots. « L'autre jour, au fond d'un vallon, un serpent piqua Jean Fréron. Que croyez-vous qu'il arriva ? Ce fut le serpent qui creva. »
Voilà. Alors, bon, là, il se trouve que c'est méchant. Là où c'est très intéressant, quand on lit toutes ces vacheries et ces réparties drôlatiques, c'est qu'elles étaient très écrites au départ. Hein. Voltaire, c'était très écrit. Chirac, ça l'est beaucoup moins. Oui. Est-ce que ça n'est pas aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui sont, vous allez nous en dire plusieurs, hein, mais il y en a qui n'ont pas été écrites, qui ont été dites, mais est-ce que le temps ne les a pas embellies?
Disons que autrefois, quand on écrivait, et c'est toujours le cas, on a le temps de la réflexion. Donc on a le temps de jouer avec les mots, avec les subtilités du langage. Aujourd'hui, ce sont plus des instantanés face aux caméras. Donc forcément, il y a moins le temps de la réflexion. Et le niveau de vocabulaire, d'ailleurs, n'est pas du tout le même. Aujourd'hui, c'est plus du langage courant, familier.
Là, c'est assez court, justement. C'est pour ça que je comparais ça à des tweets. Parce qu'effectivement, ça demande l'esprit de répartie immédiat. Et puis la concision, par exemple, il y a ces pages 17. C'est le futur Henri IV hein, qui a eu beaucoup de mal à conquérir, plus de mal qu'on ne croit à conquérir la France. Et il venait de mettre le siège devant Chartres, Henri IV. Et il a dû faire canonner. Et à un moment, les gens se rendent et que disent-ils à Henri IV?
Alors il y a un comité d'accueil qui vient en gros rendre les clés de la ville et ils disent ceci: Sire, la ville est soumise à votre majesté tant par le droit divin que par le droit romain. Et Henri IV ajoutez par le droit canon. Voilà. Donc là, c'est ce que j'appellerais le mot d'esprit. Là, on joue avec le sens propre, le sens figuré.
Et alors, page 13, on en revient à Rabelais. Revenons à la littérature et aux écrivains. À qui Dubellay, son oncle, hein, Dubellay, elle était l'oncle de Rabelais, reprochait de ne pas s'être prosterné devant le pape Paul III. Que lui répondit-il?
Alors à ce moment-là, quand Dubellay s'était prosterné,
il avait embrassé les pieds.
Voilà, il s'était éclipsé. Et, évidemment, son oncle lui demande pourquoi il s'est éclipsé. Et il répond ceci, « Puisque vous qui êtes mon maître avez baisé la mule du pape, que vouliez-vous donc que je baisasse ?»
D'où l'origine de la mule du pape. Je m'étais toujours posé la question, pourquoi parlait-on de la mule du pape? Pour désigner son chausson, bien entendu. Mais je ne savais pas qu'en fait, l'origine, c'était ce mot de Rabelais.
C'est une répartie drôlatique.
Qu'en pensez-vous, Serge Vasvani?
Oui, c'est très savoureux, bien sûr. Mais plus on recule dans le temps, plus on pourrait dire de l'esprit.
Et de l'esprit qui n'est pas forcément français. Hein. Il y a l'exemple de Francis Bacon, qui était le chancelier en Angleterre. C'est page 21, Francis Bacon. Et il parle de l'ambassadeur français qui vient de se présenter au roi d'Angleterre. Alors le roi d'Angleterre lui demande comment il l'a trouvé. Hein. Et Bacon dit, il est grand, il est bien fait. Mais enfin, le roi d'Angleterre, il veut en savoir un peu plus. Il voudrait avoir vraiment l'avis de Bacon sur cet ambassadeur français. Et dites-nous, Didier, ce qui lui répond, Bacon.
Alors, il faut d'abord préciser qu'autrefois, donc les hôtels particuliers, plus on allait en fait vers les étages supérieurs, et plus c'était réservé
au petit personnel, parce qu'il fallait monter les escaliers, il n'y avait pas d'ascenseur.
Exactement.
Hein,
et donc là, Bacon va faire ce parallèle, et il dit ceci, « Sire, les gens de grande taille ressemblent quelquefois aux maisons de 4 ou 5 étages, dont le plus haut appartement est d'ordinaire le plus mal meublé. » Voilà.
Là, qu'est-ce que c'est bien dit pour parler d'un con.
Oui.
Éric Sadin.
Oui, là, j'entends, c'est assez drôle. C'est toujours extrêmement, extrêmement bref. Hein, comme
toujours
ça,
extrêmement bref.
Il faut en tweeter certaines. Alors.
C'est un peu le tweet de l'époque, c'est ça.
Il y a le régent Philippe d'Orléans qui a été l'objet de beaucoup de saillies comme ça. On le retrouve page 51. Alors vous racontez qu'il mangeait trop à une époque. Hein, c'était lui le débauché. Il mangeait trop, il avait beaucoup grossi. Un jour, il rentre de la chasse et dit à un de ses courtisans qu'il a failli tomber dans un fossé. Et le courtisan lui a réplique immédiatement.
Monseigneur, il en eût été comblé.
C'est joli.
Ah, et puis c'est osé quand même, parce qu'on se fait de l'époque, on a l'impression finalement qu'il n'y a pas de liberté de parole à l'époque, qu'on est dans un absolutisme vraiment très, très rigoureux. Et on s'aperçoit que les courtisans pouvaient répondre au roi de manière impertinente.
Mais vous pensez que c'est vrai ? Est-ce que ce ne sont pas... Parce que là aussi, c'est comme sur Facebook, on rapporte les propos de quelqu'un, au fond, dont on n'a jamais entendu s'il les avait vraiment prononcés. Est-ce que toutes ces phrases sont vraies ? Là, l'historien que vous êtes doit se poser quelques questions.
Disons que quand c'est rapporté évidemment par plusieurs sources, l'historien n'a pas lieu d'en douter. Après, quand ça ne se trouve que dans un journal intime, par exemple, on peut se demander quelle est la part de propagande, si quelque part c'est pas un peu le mur du Facebook dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le courtisan qui va jouer un peu les bravaches en disant j'ai cloué le bec du roi ou de tel personnage.
Est-ce qu'il y a tellement de phrases qu'on se répète à l'infini et dont on s'aperçoit à la fin que la personne qu'on cite ne les a jamais prononcées? Ça vous est pas arrivé, vous, Serge Rezvani? On fait pas des citations de Serge Rezvani qu'en fait vous n'avez jamais dit, comme on en a prêté à Sartre, comme on en a prêté. Il faut pas désespérer
Bianco.
Il ne faut pas désespérer Bianco, par exemple. Je crois que
j'aime
ne
beaucoup, c'est Rousseau qui a inventé quand même ce terme d'esprit d'escalier. C'est qu'en fait, c'est une fois qu'on est sorti de la pièce et qu'on se dit merde, je n'ai pas su avoir de la répartie. Et ça, c'est, et nous sommes tous malades de cet esprit d'escalier, je crois. Et là, ce qui est merveilleux, c'est le véritable esprit, c'est quand ça, c'est au vol, quand ça vient comme ça. Et même si ce n'est pas vrai, c'est tellement beau. Ça devient de la poésie. Donc on est
la beauté du langage suffit à elle-même dans ces cas-là.
Absolument.
Europe 1 Social Club. 21h, 22h30. Frédéric Taddeï.
On est toujours avec Didier Chira qui publie « Mots d'esprit, répartie drôlatique et autres vacheries de l'histoire de France » à la librairie Vuibert. Alors avant de s'intéresser aux plus récentes, parce qu'il y en a des récentes, hein, des vacheries qui sont extraordinaires, il y en a encore quelques-unes sur lesquelles j'avais envie que nous nous arrêtions. Ce soldat français, page 68, qui a perdu ses deux bras arrachés par un boulet à la bataille d'Astenbeck. Et il y a un officier qui lui donne un écu à l'époque, hein, c'était comme ça, c'était pas des armées comme on en connaît aujourd'hui. Et que croyez-vous qu'il répondit, ce soldat français?
Alors,
on vous écoute,
il donne un écu en plus en jouant les grands seigneurs. Et là, évidemment, le soldat lui répond « Vous croyez sans doute que je n'ai perdu qu'une paire de gants ?»
C'est un humour qui, effectivement, va avec l'ampleur du désastre. Voltaire, on en parlait tout à l'heure, il était évidemment contre la censure et contre les autodafés dont il avait pu être lui-même victime avec ses livres. Enfin, il était contre, il savait aussi en rire, hein, on est page 72. Et Voltaire, qu'est-ce qu'il dit quand on lui dit qu'on a brûlé ses livres ?
Mes livres sont comme les marrons, mieux on les rôtit. Et mieux ils se vendent. Donc là, évidemment, il met en exergue le fait que plus on interdit et plus on va intéresser les gens, finalement.
Vous le croyez, ça, Serge Rezvani ?
Oui, ça me fait penser à Parmentier. Oui. Les Français ne voulaient pas les pommes de terre et on a planté dans les Tuileries un carré de pommes de terre gardé par des soldats.
Le jour, mais pas la nuit.
Exactement.
Parce
c'est
comme
ça que les Français ont fait des frites, pour finir.
Oui, parce qu'ils sont allés les voler, ils se sont dit ça doit être précieux.
Voilà.
Alors, on croit souvent que c'est Parmentier qui a rapporté la pomme de terre, ce qui n'est pas vrai, mais en revanche, c'est vraiment lui qui a fini par convaincre les Français de manger de la pomme de terre, alors que c'était...
Comme quoi, l'interdit est passionnant.
Et déjà, à l'époque, la publicité fonctionnait, puisque Parmentier avait eu l'idée de donner à Louis XVI une fleur de pomme de terre qu'il avait accrochée en fait à sa veste. Et les courtisans, de ce fait-là, s'étaient dit on va se mettre à la mode de la pomme de terre, puisqu'on mimait souvent le souverain, en fait.
Parlez-nous de la répartie de Bailly, célèbre astronome. On le connaît parce que quand on voit ce très beau tableau sur le serment du jeu de paume, celui qui est sur la table et qui tend le bras, c'est Bailly. Bailly, grand révolutionnaire, qu'on va évidemment guillotiner, comme la plupart des grands révolutionnaires à l'époque, et par un jour très très froid. Et qu'est-ce qui s'est passé, Didier Chira ?
Alors lui, il a été autant adulé que détesté, puisque lors du serment du jeu de paume, évidemment, on voit en lui... Celui qui annonce la Constitution. Et par contre, il est également associé à la fusillade du Champ de Mars. Donc il a demandé aux révolutionnaires de rentrer chez eux. Et il aurait déclenché en fait une fusillade mortelle. Donc les révolutionnaires ne lui ont jamais pardonné. Et là, il se dirige vers l'échafaud. Et il y en a un qui lui dit « Ah, tu trembles, Bailly ?» Et là, il répond « Oui, mais c'est de froid. »
C'est une belle réplique. Est-ce qu'il y a de belles répliques sur Facebook, Didier Sadin, vous, Eric Sadin, pourquoi je vous appelle Didier tout le temps, Eric
Sadin, Pour dire la vérité, si je vais être très, ça va être très sec ce que je vais dire. Je n'ai jamais rien appris sur Facebook avec des années de Facebook. C'est terrible.
Mais sur Twitter, il y a parfois cette
sur Twitter, parce qu'il y a cette contrainte qui est intéressante.
Enfin, des 140 signes.
Des 140 signes. Alors que sur Facebook, en général, le pire étant les gens qui racontent leur vie, leur rupture, c'est épouvantable. Mais quelque chose qui relève de jolis jeux de langage, j'en ai jamais vu. Moi.
C'est très différent, votre livre, Didier Chira, d'un dictionnaire de citation. Dans les dictionnaires de citation, la citation se suffit à elle-même. On va à l'article guillotine, à mort, à liberté, à sexe, et on a comme ça un catalogue de citations. Vous, à chaque fois, il faut le remettre dans son jus.
Ah oui, ça a été toute la tâche qui m'était impartie. Certaines citations, il faut replacer le contexte historique. Et c'est là où l'éclairage de l'historien est, à mon avis, indispensable. Et à propos de la Révolution, il y en a une très belle aussi, qui, lors de la Terreur, donc c'est un dénommé Antoine Martinville, qui est un contre-révolutionnaire, qui est royaliste. Et donc qui arrive devant le tribunal révolutionnaire et il sait que il risque tout simplement de passer à la guillotine, qui est une invention donc du docteur Guillotin pendant la Révolution.
Non, et... pas une invention, c'est lui qui l'a
permis,
lui qui a inventé la machine.
Qui l'a fait adopter par les autres députés. Et le juge n'arrête pas de dire Antoine de Martinville par-ci, Antoine de Martinville par-là. Il s'appelle Antoine Martinville. Hein. Et là, le Antoine Martinville en question, il dit « Attendez, vous êtes là pour me raccourcir et non pour me rallonger. » Voilà.
C'est classe.
Donc là, par exemple, il faut replacer le contexte.
Alors justement, parlons des plus récents, parce qu'il y en a des vacheries, des réparties drôlatiques. Il y en a une qui est célèbre, page 201. D'ailleurs, c'est la dernière que vous avez choisie. Hein, c'est une réplique de François Hollande. Alors tous les Français s'en souviennent. Ils l'ont vu à la télévision. C'est un petit garçon.
Au salon de l'agriculture, donc François Hollande lui serre la main et le petit garçon lui dit qu'il ne le connaît pas, mais qu'il connaît plutôt Nicolas Sarkozy. Et là, on a François Hollande qui lui dit tu le verras plus. Ce qui a choqué, je me rappelle le lendemain sur une chaîne de télé, les Français ont été globalement choqués par cette répartie.
C'est la bougeatrie.
Oui.
C'est
on peut ranger ça dans les vacheries, en effet.
Pas l'esprit.
Mm-hmm.
Alors, qu'est-ce que c'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon, page 199, à Marine Le Pen? Marine Le Pen, dans un débat, se plaignait qu'il l'avait traité de semi-démente.
Oui, il l'avait traité de semi-démente et il lui répond ça vous laisse une bonne moitié.
Ça, c'est une vacherie, Serge Vasbani.
Oui.
Et Chirac, alors je me suis toujours demandé si c'était vrai, parce qu'à l'époque on filmait moins qu'aujourd'hui, il n'y avait pas tous ces téléphones portables, on était en 2001, il y avait des téléphones portables mais ils ne faisaient pas caméra, et Jacques Chirac, président de la République, se faisant traiter de connard quand même dans la rue, aurait répondu...
Il aurait répondu « Enchanté, moi c'est Chirac ».
C'est très beau.
Il y a celle de Mitterrand aussi qui est très belle. Donc dans les années 80, lors d'un voyage en province, on lui dit « Mitterrand fout le camp ». Et il lui dit « Oui, mais la rime est pauvre
». Il y a celle de Sarkozy à propos de connard, disant « Pauvre con » quand même.
Oui,
aussi, en
casse-toi, pauvre con. Oui, mais là, c'est pas drôlatique, c'est pas une vacherie.
C'est le langage actuel où on dit « je prends un petit déj ».
Voilà. Mitterrand, toujours lui, sur Édith Cresson, hein, qui était son premier ministre, c'est page 193. Vous vous en souvenez de celle-ci, Didier Chira?
Alors, il a dit cette chose. « Quand j'ai nommé Édith Cresson, je lui avais dit qu'elle avait le devoir d'être impopulaire. Je ne pensais pas qu'elle réussirait aussi bien. » Là, wow. Venant du même camp, c'est une vacherie terrible.
Coluche en 83, on est page 188 dans votre livre, Coluche en 83 sur les socialistes au pouvoir, il dit alors quelque chose qui est, c'est pas une répartie, on pense qu'il a mûri, hein, ça, donc ça doit être une vacherie. Mais c'est quand même un mot d'esprit.
Beaucoup de dépit dans ses propos. Il dit les socialistes auraient dû faire comme Dieu, ne jamais se montrer pour qu'on continue à y croire.
Sagesse Bani.
Non, c'est très philosophique.
Vous avez connu Coluche ?
Le cachet, c'est ce qui est le plus important, c'est ce qui est le cachet.
Vous avez connu Coluche ?
Non.
Non, jamais. Et puis alors, il y en a une, je l'ai gardée pour la fin, parce que je me demande si ce n'est pas du comique involontaire. C'est Georges Marchais qui fait une grande déclaration, on est page 185, et Georges Marchais fait une très grande déclaration sur le changement. À l'époque, c'était le mot, c'est resté d'ailleurs un mot machine, hein, un mot qu'on utilise très souvent en politique, mais quand c'est Georges Marchais qui le prend dans sa bouche, ça donne quelque chose de très amusant.
Alors il dit, nous n'avons jamais changé, nous ne changerons jamais. Nous serons toujours pour le changement.
Voilà. Texto, vraiment ?
Texto, ouais, texto. Là, je pense en effet que c'est involontaire, évidemment.
Il y en a d'autres, je vous ai dit celles qui m'avaient fait rire et puis qui sont les plus facilement compréhensibles pour nos auditeurs, parce qu'il ne faut pas lire tout le livre pour les comprendre. Néanmoins, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Hein. Laquelle vous semble la plus drôle ? Laquelle vous a le plus épaté, Didier Chira ?
Dans les réparties drôlatiques, celle de Littré, pour moi, est quand même très intéressante. Donc Littré, qui est l'auteur donc, du fameux dictionnaire, hein, qui est un travail titanesque, hein, un dictionnaire étymologique et historique. Il a mis pratiquement deux décennies à le faire. Donc il travaillait vraiment comme un forcené. Et il se détendait quand il en avait le temps. Et un jour, il se détend avec la domestique et sa femme arrive. Et là, elle est effarée, elle dit « Ah, monsieur, je suis surprise !» Et là, la répartie est saisissante. Il dit « Non, madame, c'est nous qui sommes surpris. Vous êtes étonnée.
» Pourquoi ça sert un dictionnaire ? Éric Sadin, vous sortez un roman le 3 avril, ça s'appelle Soft Love, c'est chez Galad, je tenais à le signaler.
Merci.
Le numéro des Inrecuptibles qui est sorti aujourd'hui est donc consacré aux 10 ans de Facebook, et c'est dans ce numéro que vous avez publié l'article dont nous avons longuement parlé ce soir, intitulé « La machine à flatter ». Serge Rezvani, votre nouveau roman, Vers les confins, vient de paraître aux belles lettres. Et pour ceux qui voudraient lire, encore une fois, je dis, ça n'est pas obligatoire. Hein. Moi, j'ai lu celui-ci sans avoir lu le précédent, mais La traversée des monts noirs, que vous aviez écrit il y a 20 ans, est également publié, réédité aux belles lettres. Et enfin, Didier Chira, Mots d'esprit, réparties drôlatiques et autres vacheries de l'histoire de France, ça vient de paraître à la librairie Vuibert. Nous, on se retrouve demain. Dans un instant, c'est Europe Nuit avec Emmanuel Faux.